18h sur Radio Campus Paris, nous sommes le lundi 10 juillet et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, bienvenue pour la relève. Depuis le temps que vous nous écoutez, vous devez commencer à connaître le programme. Alors c'est parti pour 45 minutes avec non pas un mais deux jeunes talents d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de crime, de musique. Mon invité, il y en a un qui est écrivain et l'autre qui est pianiste. Je ris parce qu'en fait, enfin non, je ne peux pas raconter pourquoi je ris, mais je ris quand même. Bonjour Gabriel Doria, vous êtes pianiste. Vous allez jouer le 28 juillet prochain à la Rock d'Anteron. À 11h même, je vais donner l'heure tout de suite, hein, ça sera 11h à l'amphithéâtre Marcel Pagnol, c'est ça?
Exactement, c'est ça.
Et puis face à vous, il y a Thibaut Rest, qui est journaliste, vous publiez un récit aux éditions 10-18 avec le magazine Society, ça s'appelle « L'inconnu de Cleveland ».
C'est ça, bonsoir.
Bonsoir. Qu'est-ce que vous aimez lire, Gabriel Doria? Vous n'aimez pas lire peut-être?
Si. Beaucoup de musique, ça c'est sûr.
Que les biographies de pianistes.
Il y a pas mal de ça, mais à vrai dire, non, j'ai lu beaucoup les classiques. J'ai un grand admirateur de Victor Hugo. Je me suis mis plus récemment à la poésie d'ailleurs, aussi en lien avec, bien sûr, avec la musique, avec les poésies de Baudelaire, de Verlaine. Et puis, je dois dire, j'ai lu aussi de la littérature.
Pas de roman policier, c'est pour savoir si vous avez une chance de lire.
Oui, j'ai pas encore lu malheureusement le livre de Thibault, mais je vais le faire. Et en plus, je suis un amateur de faits divers. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec la musique, on sent en général. Vous savez, on entre dans un monde où les crimes, les choses comme ça, sont loin. Mais j'ai aussi cette part-là.
Il y a du crime dans certains opéras.
Dans certains opéras, c'est vrai.
Vous pourriez.
Mais heureusement, en général, c'est fictif. Les gens se relèvent à la fin, après le lever du rideau.
Ouais. Et il y a peu d'enquêteurs.
Il y a peu d'enquêteurs, les chefs d'orchestre. C'est pour la même chose.
Thibaut Rest, alors, avec vous, on va rentrer dans l'univers du crime. Du grand crime, vous avez été un des auteurs de la série sur Xavier Dupont-Ligonnès. Là, vous vous intéressez à un personnage qui s'appelle Joseph Chandler. Je savais que je n'arriverais pas à le dire. Quelle est la différence entre un journaliste et un policier?
C'est une bonne question, ça.
Parce
on
que
a 4 heures.
Journaliste. Ouais. 4 minutes éventuellement, vous pouvez essayer.
Moi, dans ma conception du métier de journaliste, il n'y a pas une énorme différence en vérité. C'est-à-dire que j'aime pas trop le côté des journalistes qui se contentent de collecter des informations comme des super archivistes ou des super documentalistes et puis qui présentent au public la somme, si je puis dire, de tout ce qui a été fait sur une affaire. Moi, j'ai une vision un peu plus active du métier et j'aime bien des affaires non élucidées ou pas totalement élucidées, précisément parce que j'ai ce côté un peu flic où je m'attaque à une affaire en me disant s'il reste des parts d'ombre, ce serait amusant pour moi d'arriver à les éclaircir et pourquoi pas à trouver des nouveaux fils à tirer. Donc il n'y a pas une énorme différence. La grosse différence, c'est qu'un policier ne peut pas agir d'initiative. Il a un juge d'instruction au-dessus de lui, il a une hiérarchie, il a des moyens limités à engager. Moi, je réfère à mon rédacteur en chef, mais si je veux taper à une porte, j'ai pas besoin de commission rogatoire. J'ai pas besoin d'un tampon d'un juge, quoi, et c'est sympa.
Vous travaillez pour la presse écrite essentiellement?
Je travaille pour la presse écrite essentiellement, oui. D'abord au Parisien pendant presque 10 ans, et depuis pour différents magazines, le magazine Elle, le magazine Society et d'autres.
Vous avez là, parce que moi j'ai souvent une discussion avec quelqu'un qui travaillait en radio, alors pas Radio Campus, une grande radio nationale, qui me disait que le métier de fait diversier, c'était très dur, parce que parfois, il faut aller frapper à la porte des parents d'un enfant qui vient de mourir, ouais. Et qu'il faut ramener le son, et qu'il y a le rédacteur en chef qui gueule, parce ouais. que la concurrence a eu ça. Vous avez ça aussi, vous avez été confronté à ça?
Oui, j'étais confronté à ça.
Ça, c'est dur quand même.
C'est pas la partie du métier la plus facile, ni la plus agréable, mais... quand on est dans une situation comme celle-là, c'est qu'on a affaire souvent à des crimes qui sont horribles avec des résonances très fortes dans la société, parce que les faits divers, souvent, ça touche les gens de manière très, très intime. Et donc, il y a un besoin, et c'est le rôle du journaliste, il y a un besoin de savoir ce qui s'est passé le plus rapidement possible. Et donc, comme il n'y a pas de communicant dans le fait divers, il n'y a pas d'attaché de presse, il n'y a pas de spin doctors, on est confronté aux gens sans filtre. Et donc, effectivement, ça implique parfois de taper à la porte et d'essayer de recueillir le témoignage de gens qui sont dans des situations tragiques. Mais on ne les force pas, hein, mais évidemment, c'est jamais le bon moment dans des cas comme ça, c'est certain.
Qu'est-ce qui fait un bon fait divers pour vous?
Un bon fait divers.
Vous en avez découvert plusieurs déjà.
Oui, un bon fait divers, c'est un fait divers.
Certains ont dû vous ennuyer.
Oui, bien sûr. Et puis certains se suffisent à eux-mêmes, c'est-à-dire les bons faits divers, ce sont ceux qui disent un peu plus qu'eux-mêmes. c'est-à-dire qui disent un peu plus que simplement un criminel et une victime. Un bon fait divers, c'est celui qui dit quelque chose de la société, qui dit quelque chose de l'époque, qui dit quelque chose de nous-mêmes. Parce que finalement, le fait divers, ce sont des gens qui sont confrontés à des conflits comme on est confronté, nous, à des conflits dans notre quotidien, mais qui trouvent des manières un peu différentes de les résoudre.
Parfois, on fantasme de les résoudre de cette façon-là.
Oui, c'est ce que je dis souvent. Je dis souvent, on s'est tous retrouvés à dire un jour, lui, si je m'écoutais, je le tuerais. Et le problème, c'est qu'on l'a souvent pensé aussi. C'est ça le problème.
L'inconnu de Cleveland, celui dont on va parler maintenant et une partie de cette émission, qu'est-ce qui vous a intéressé ? Enfin, d'abord, comment vous avez connu cette affaire américaine ? Puisque vous êtes français, on l'entendait depuis le début, vous vivez, je ne sais pas, peut-être aux États-Unis ?
Non.
Donc comment vous avez été amené à connaître cette histoire incroyable ?
Alors, il faut que je dise simplement en préambule que L'inconnu de Cleveland est un livre qui fait partie d'une collection d'un éditeur, lancé par un éditeur qui s'appelle 1018, qui est un éditeur de littérature américaine. Et le but de cette collection, c'est de cartographier les 50 États des États-Unis avec à chaque fois un crime, une affaire judiciaire qui éclaire cette petite partie des États-Unis qu'on veut raconter. Et donc, on m'a demandé de participer à cette collection et de choisir un État et une affaire judiciaire dans un État. Et je n'avais pas tellement d'idées. Et j'ai commencé par aller sur Wikipédia, chercher un crime en tapant
horrible, un truc.
J'ai tapé « crime aux États-Unis », puis j'ai regardé ce qui sortait en catégorie. Et puis, je suis tombé sur des choses absolument abjectes, parce que les Américains sont très créatifs quand il s'agit de crimes, mais pas des choses très intéressantes, quoi. Et donc, j'ai fini par... écrire à un journaliste que j'aime beaucoup, qui est à la fois un journaliste de True Crime dans l'Ohio et un romancier qui a eu des livres traduits en français chez Pocket. Et je lui ai dit, voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites. Moi, je suis journaliste de True Crime. James Renner, R-E-N-E-R. Je conseille ses livres disponibles chez Pocket en France. Et je lui ai dit, voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites. Moi, on fait le même métier. Moi aussi, je suis journaliste de True Crime. Et je cherche une affaire intéressante pour écrire un livre qui ferait que je viendrais aux États-Unis enquêter. Est-ce que vous avez une idée ? Et il m'a dit, il m'a répondu dans les deux heures. Et il m'a dit, il y a cette affaire intéressante, l'affaire Chandler, qui s'est déroulée pas loin de chez moi, à Cleveland. Et moi, j'ai travaillé un peu dessus, mais si je pouvais faire un livre, j'irais à mort, quoi. Je foncerais.
Alors, je ne sais pas ce qu'on peut raconter ou pas de cette histoire. Je vous laisserai juger. Vous m'arrêterez si vous trouvez que j'allais trop loin. Moi, je dirais que tout commence par un suicide dans une sorte de village de mobile home. Monsieur Tout-le-Monde est mort au milieu de nulle part. C'est à peu près ça.
Très bien résumé.
Exactement. Donc on retrouve son cadavre, une scène de non-crime puisque c'est un suicide.
C'est une scène de découverte de corps au départ.
C'est horrible.
Assez abject. Hein. C'est pas très. Il faut pas lire le chapitre d'ouverture en mangeant ou en étant. Oui. Enfin, je dis pas tout, mais le cadavre est dans un état de décomposition très avancé. Et donc cet homme est retrouvé mort dans sa salle de bain et on s'aperçoit très rapidement que c'est un suicide. Il y a un revolver sous sa poitrine et puis la position du corps correspond à celle de quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la bouche. Et donc, le dossier est classé quasiment aussitôt. Le médecin légiste confirme la piste d'un suicide. Sauf que cet homme a de l'argent sur son compte en banque. Et donc, les flics, avant de refermer le dossier, se disent que ce serait bien de trouver un ami, un héritier, un enfant, une femme. Et donc, ils font une petite enquête de voisinage. Sauf que personne ne connaît ce type, au-delà de « bonjour, au revoir » et encore. Et ils le décrivent comme quelqu'un de mutique et sans famille, sans amis connus.
Il a un mobil-homme très bizarre aussi. Il n'y a et pas oui, grand-chose chez lui quand même.
C'est très, très, pour le moins, frugal comme intérieur. Il y a très peu de vaisselle. Il y a un change, un seul, donc un pantalon, deux chemises, un anorak, alors qu'il vivait là depuis 17 ans, ce qui est quand même pas commun.
Et deux livres, bizarre.
Deux livres. Un qui est « Comment devenir riche de chez soi avec son ordinateur » et l'autre « Comment faire fortune en bourse ». Sauf que cet homme, il est assez riche en vérité. Ça aussi, c'est bizarre. Il a 60 000 dollars en banque. Et donc, un ami, pas un ami d'ailleurs, plutôt un ex-collègue, va être désigné pour chercher un héritier à cet homme-là. Et un détective privé va s'en mêler. Ce détective privé va découvrir que Joseph Chandler ne s'appelait pas Joseph Chandler, que c'est un homme qui vivait sous une fausse identité, ou plutôt l'identité empruntée à un enfant mort. Depuis 24 ans. Et donc là commence une deuxième enquête qui est la véritable enquête qui va chercher à savoir qui était véritablement cet homme et pourquoi il avait changé d'identité.
Alors, autre singularité, il n'a laissé aucune empreinte digitale.
Oui, c'est ça qui est très intriguant. Vraiment les plus troublants de cette enquête, c'est-à-dire qu'au moment où on s'aperçoit que cet homme cachait un passé manifestement qu'il voulait dissimuler, on va ressortir les scellés qui ont été prélevés le jour de la découverte du corps. Beaucoup de scellés, des effets personnels, des cartes, des vêtements, le revolver et aussi le pick-up de cet homme-là qui a été mis sous scellé dans une fourrière. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas l'ombre d'une trace d'empreinte digitale. Alors d'habitude, il y a des empreintes digitales, ça ne matche pas, comme on dit, avec les fichiers. Sauf que là, il n'y a rien. Il n'y a rien à comparer. Cet homme-là, soit effaçait immédiatement les traces qu'il faisait après les avoir faites, soit il vivait avec des gants. Il n'y a pas d'autre hypothèse.
Soit il avait les mains qui avaient été brûlées. Et il avait
soit il s'était limé les empreintes, comme on voit dans certains films. Bon, ça, c'est quand même rarissime. Mais en tout cas, évidemment, ça ajoute au mystère et ça donne envie à la police de savoir qui était cet homme. Parce que si on a pris autant de précautions pour vivre sous les radars, c'est qu'on a quelque chose à cacher.
Ça, c'est l'hypothèse de la...
C'est l'hypothèse de départ, ouais.
On peut être juste avoir envie juste de vivre tranquille, loin d'une première famille avec laquelle on a rompu.
Sauf qu'aux États-Unis, comme c'est un pays avec 50 États et que les États sont assez hermétiques les uns avec les autres, il est possible de changer de vie, d'abandonner sa famille, de recommencer une autre vie dans un État différent sans forcément avoir besoin de changer d'identité, qui est quand même une démarche assez singulière. Et il suffit de changer peut-être, de passer de la côte Est à la côte Ouest. Hein. Ça, c'est quelque chose qui a été fait beaucoup et qui est encore quelque chose qui se fait beaucoup sans avoir besoin d'abord de changer d'identité et ensuite de faire en sorte de rester sous les radars au point de ne laisser aucune empreinte chez soi. C'est quand même une démarche un peu différente.
Vous, au moment où on le retrouve, au moment où on commence donc l'enquête, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est qu'on n'a pas d'ADN.
On n'a pas d'ADN.
Encore l'ADN. On ne fait pas encore faire chercher.
Non, c'est trop tôt. On est en 2002. Alors, c'est les balbutiements de l'ADN.
Donc, personne n'y pense.
Personne n'y pense. Ça ne fait pas partie de la routine du policier. La routine du policier, c'est faire des scellés et des recherches d'empreintes, mais il n'y a pas d'empreinte qui est prélevée sur le corps parce que le corps est dans un état de décomposition qui est trop avancé. Donc, il reste les objets prélevés et qui ne donneront rien lorsqu'on va tenter de les analyser.
Alors, on ne va pas trop en dire parce que les gens, ils n'ont qu'à lire le livre s'ils veulent savoir.
Exactement,
et puis,
pas cher,
sinon, ils n'ont qu'à chercher, ils peuvent trouver des endroits où on raconte l'histoire aussi.
Ouais.
On ne dira pas où.
Non.
Ce que je veux dire, c'est qu'on finit par trouver son identité, on finit par trouver le nom de cette personne de façon à peu près sûre, parce que pas par une enquête qui est assez longue, qui prend plus d'une dizaine d'années.
18 ans.
Et quand on publie sa photo, personne se manifeste finalement, à part des gens de sa famille, mais il n'y a pas de collègues qui l'ont connu. Moi, c'est ça qui me trouble encore, c'est que personne ne se souvient de lui.
Oui, alors il faut se dire quand même que la particularité...
Alors qu'il est très bizarre en plus.
Oui, il est très bizarre. C'est un homme qui a des habitudes très, très bizarres. C'est quelqu'un qui, dans les témoignages qui ont remonté, s'imaginait être en permanence mordu par des puces, alors que selon ces mêmes témoignages, il ne présentait jamais aucune morsure. C'est quelqu'un qui avait un sens de la paranoïa assez aigu, qui était totalement mutique, dans le sens où certaines personnes ont passé des années avec lui sans jamais entendre le son de sa voix. C'est quand même particulier.
Il faut quand même dire qu'il était ingénieur. Hein,
il était ingénieur, électricien.
Dans sa deuxième vie, il était ingénieur.
Voilà, dans sa deuxième vie, sous cette fausse identité, il était ingénieur. Des témoignages rapportent qu'il se baladait tout le temps avec une petite mallette. Alors, on n'a jamais su ce qu'il y avait dedans, mais il se trouve que de temps en temps, il disparaissait de la boîte. Ses collègues ne le voyaient pas pendant 15 jours, puis il revenait. Et quand on lui demandait mais pourquoi tu es parti, il disait parce qu'il se rapproche de moi.
Est-ce que le jeune pianiste, à ce point de l'histoire, a une idée de ce qui peut s'être passé? Je ne sais pas. Je ne vous ai pas du tout fait préparer.
Le jeune pianiste a des compétences limitées dans le domaine.
Peut-être qu'avec votre regard d'artiste, vous allez avoir...
Non, en revanche, j'étais en train de me dire que ça ferait peut-être un très bon livret d'opéra.
Ah,
il faudrait une bonne quinzaine d'actes, peut-être.
On va s'échanger
et puis un
cartes,
casting déjà assez téméraire pour trop... un rôle. Mais qui sait? Peut-être qu'au début, une belle collaboration.
On va s'échanger ça.
Écoutez, c'est formidable. On va pas écouter de l'opéra pour l'instant, on va écouter autre chose, mais qui a un rapport avec votre histoire.
Je l'Ohio. Je
Et oui, c'était Isabelle Adjani, celle qui a été actrice un jour et qui l'est toujours d'ailleurs, qui chantait, non, parce qu'elle est moins connue qu'à l'époque où elle a fait ce disque qui s'appelle Ohio, qui était une collaboration avec Serge Gainsbourg et que vous ne connaissiez pas autour de la table.
Merci. Moi, pour cette découverte.
Je suis très surpris parce que je pensais que c'était très connu.
Je suis très déçu de moi-même.
Et donc, c'est pas grave. Mais donc, le récit se passe dans l'Ohio et il y a un moment où vous vous dites dans votre livre que finalement ce personnage, c'est aussi un personnage qui ne peut exister que dans cet état-là. C'est finalement presque un portrait de cet état qu'on connaît très mal, qui est un état abandonné de l'Amérique.
Totalement.
Trop riche. Alors je sais plus, vous avez une formule, trop riche.
Oui, c'est trop riche pour faire rêver, pas assez pour faire pitié. Enfin, trop pauvre pour faire rêver, pas assez pour faire pitié. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est Cleveland, enfin le nord de l'Ohio et l'Ohio en général, c'est vraiment le prototype de cette Amérique blanche des marges, qui n'est pas qui est vraiment à la lisière de la pauvreté, de la richesse, qui est plutôt blanche, qui a gardé un ADN prolétaire. Même
et fier de lui, ce que vous dites.
Oui, mais en fait, c'est un État qui est complètement sous les radars de l'actualité politique et médiatique. Il n'y a jamais un homme politique qui vient dans l'Ohio, sauf, et c'est un détail important, avant les élections, parce qu'il se trouve que l'Ohio est ce qu'on appelle un swing state, c'est-à-dire que c'est l'État qui dicte la victoire ou non d'un candidat à la présidentielle. Et le reste du temps, il n'y a jamais un chat dans l'Ohio. C'est une Amérique qui est complètement ignorée, qui est transparente, et c'est donc l'endroit idéal pour vivre sous une identité cachée et pour espérer rester invisible, ce qu'a réussi ce fameux Joseph Chandler pendant un quart de siècle.
Il y a quand même une histoire qui est incroyable dans là encore, sans trop en dire. Le jour où on révèle son identité, il se passe un événement historique qui fait que ça passe à là. Ça, c'est quand même génial.
Oui, alors en fait, c'est ça. C'est-à-dire que mes éditeurs étaient très surpris que c'est une histoire qui n'ait pas fait les grands titres aux États-Unis. Il se trouve que je me suis posé la question pourquoi. Alors, c'est une affaire qui a eu de l'écho au niveau local, mais pas national. Et en fait, le jour où le détective privé mandaté s'aperçoit que cet homme vivait sous une fausse identité, on est en mars 2003. Et au jour près, c'est le moment où l'armée américaine entre en Irak pour renverser Saddam Hussein. Et donc, ce rebondissement incroyable de cet homme.
Toutes les télés sont en...
Évidemment, tous les journaux, toutes les télés sont occupés avec une activité autrement plus importante, il faut bien le dire. Et donc, la découverte que cet homme vivait sous une fausse identité depuis un quart de siècle, ce qui est quand même pas quelque chose de très commun, bah, passe complètement sous les radars.
C'est génial. C'est comme si de là où il était, il arrivait encore à...
Ouais, c'est ce qui est beau.
C'est ça qui est beau.
C'est arrivé encore par-delà la mort à rester encore caché et sous les les radars. C'est assez amusant quand on y pense.
Cette histoire est un fait divers paradoxal, puisque finalement, on a un potentiel coupable, mais de quoi ?
Oui, c'est ça, ce que je m'amuse à dire, que c'est un fait divers où on se demande qui est la victime, quoi, et non pas qui est le coupable. Parce qu'on a un type qui est mort chez lui, et finalement, c'est lui qu'on cherche à savoir. Parce que celui qui a tiré, c'est un suicide, donc il n'y a pas de doute. Mais là, la question, c'est qui est cet homme allongé par terre ? Oui, c'est un des mystères, mais j'ai envie de dire, c'est presque accessoire. C'est-à-dire que c'est une façon, cet homme et cette enquête aussi, effectivement, de raconter cette région, et puis de raconter aussi une Amérique où, justement, on peut disparaître, on peut encore disparaître. C'est difficile aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les empreintes bancaires, avec le téléphone portable, etc.
Il faut avoir prévu très jeune de disparaître.
Il faut du matériel pour brouiller les pistes, quoi. Et donc, ça raconte aussi ce moment-là des États-Unis avant le 11 septembre où on pouvait encore changer de vie, changer d'identité sans trop attirer l'attention. Donc, c'est aussi ce qui m'intéressait de raconter.
Vous passez donc comme enquêteur, comme fait diversier passer votre temps avec ces criminels, est-ce que c'est difficile de vivre toujours avec ces personnes-là ? Vous arrivez à vous protéger, à les oublier parfois ?
Je ne sais pas ce que vous répondrez à mon psy, il faudrait lui demander ce qu'elle en pense. ce sont des histoires qui m'accompagnent, évidemment, mais... l'avantage quand on est journaliste comme moi, même si maintenant je travaille sur des affaires pendant plusieurs mois alors qu'avant c'était 24 heures ou 48 heures, c'est que précisément une histoire chasse un peu l'autre quand même, et donc je vis intensément avec mes personnages, parce que je considère que ce sont des personnages même si c'est pas de la fiction, pendant des mois je me passionne pour ces affaires là je passe du temps avec ces gens, avec des gens qui les ont connus, je regarde la photo, j'essaie de comprendre ce qu'il y a dans ce petit coin de regard, je m'amuse à essayer de percer le mystère de ces personnes. J'y arrive pas toujours, voire pas du tout, mais j'essaie d'apporter un peu d'eau à ce moulin-là. Et puis un jour, j'écris. Et quand j'écris, ça y est, je couche sur papier mes névroses et tout ce temps passé avec ces gens-là. Et il y a un côté comme ça un peu cathartique. Et puis une fois que c'est couché sur papier, je passe à une autre.
J'en profite pour dire qu'à la fin du livre, il y a un QR code qui donne accès à plusieurs documents qui sont évoqués, des photos, des rapports d'enquête, les unes de journaux, oui. Le jour où on a découvert tout ça. Oui. Et que c'est passionnant. Il n'y a pas que le livre. Vous avez fait aussi un travail documentaire. Vous êtes allé beaucoup aux États-Unis pour ça ?
Oui, j'ai passé 15 jours de reportage aux États-Unis. J'ai fait quand même 2500 km en 15 jours. Donc, je n'ai pas eu le temps d'aller à la plage. C'est dommage parce que les plages du lac Erie sont absolument somptueuses. C'est un des points forts aussi, je pense, de cette enquête. C'est qu'elle raconte une Amérique visuellement qu'on connaît peu, qui est ce bord de lac Erie qui est incroyable,
qui est au nord,
qui est de l'autre côté du Canada, et qui est en même temps une région industrielle avec un grand passé manufacturier. Donc visuellement c'est très beau, c'est très insolite, et donc je me suis amusé aussi à raconter ça. Ouais.
Vous imaginez que sur lequel vous avez enquêté avant, Xavier Dupont de Ligonnès, pourrait avoir une vie comme l'inconnu de Cleveland quelque part dans un mobil-home avec une autre identité ?
Oui, pourquoi pas. Enfin, moi, ce qui m'amuse dans une affaire judiciaire, qu'elle soit grave ou pas, c'est la part d'inconnu et la part de mystère qu'elle garde. Et c'est un point commun entre cette affaire à Cleveland et Xavier de Ligonnès, c'est qu'il y a un gros point d'interrogation dans l'inconnu de Cleveland, c'est de savoir pourquoi il se cachait. Puis Xavier de Ligonnès, c'est où est-il ? Et peut-être qu'il a une vie comme ça, j'en sais
ça,
rien.
Ça, c'est aussi votre différence avec les policiers. C'est que les policiers, ils ont besoin de savoir parce qu'ils ont un juge qui veut des réponses.
Ouais, puis
eux, pas savoir, ça les amuse pas, je pense.
Non, puis ils ont la prescription qui les oblige, des moyens. Moi, je peux enquêter encore dans 20 ans sur tout ça, si j'ai envie.
La Relève, sur Radio Campus Paris.
Et alors Thibaurès, est-ce que vous écoutez de la musique ?
Ouais, j'écoute beaucoup de musique, j'adore
ça. Quel genre ? Alors à Paris, Isabelle Jenny, que vous ne connaissiez pas ?
Le dernier concert que je suis allé voir, c'était à Londres, et c'était un groupe de jazz, piano jazz, qui s'appelle Gogo Penguin. C'est mon dernier coup de cœur. Donc c'est du jazz contemporain, avec un lead pianiste absolument formidable. Mais j'écoute beaucoup d'autres choses, du rock, du classique, d'un peu tout.
Alors j'ai essayé de vous convaincre d'aller à La Roque d'Anteron. C'est vers Aix-en-Provence, hein, c'est ça ?
Exactement, c'est au nord d'Aix-en-Provence.
Donc écoutez, le 28 juillet prochain à 11h à l'Amphithéâtre, Marcel Pagnol, Gabriel Durlia. Vous êtes donc, ça sera votre première fois, enfin, c'était ma question, c'était ça, est-ce que ça sera votre première fois à ce festival et dans quel état d'esprit vous y allez ?
Oui, tout à fait, ce sera la première fois que je vais me rendre dans ce mythique festival. C'est, ce qu'il faut voir, peut-être que, quoi que je dis, la Roque Nanterron est un nom en général qu'on connaît, même quand on n'est pas forcément initié, parce qu'il faut dire que c'est la grand-messe du piano, si ce n'est en France, en Europe, voire encore dans le monde. Oui, dans le monde, c'est ça, je ne savais pas à quel jeu me placer.
Soyez pas modeste.
Oui, non, mais de toute façon, oui, tout à fait. C'est vraiment, dans le monde, c'est un festival reconnu, donc en effet, c'est la première fois que je m'y rends et c'est un très grand honneur. Et je dois préciser d'ailleurs que je m'y rends en tant qu'élève d'Hortense Cartier-Bresson.
On va en reparler.
Très bien, voilà. Mais voilà, c'était mon trait de modestie après avoir dit que c'était un festival mondial. Voilà.
Non, mais vous êtes content, ça vous fait.
Bien sûr,
vous y étiez allé comme spectateur déjà.
Et à vrai dire, non. J'ai vu beaucoup de lives, ou entendu beaucoup de lives de la rock. Et tout le monde m'en parle comme vraiment d'un lieu.
Et est-ce que l'inverse, ça vous fait rêver d'y aller?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, je ne pensais pas que j'irais si tôt d'ailleurs. Et bien sûr, c'était un rêve.
Mais c'est un rêve du jeune Gabriel. Ça me fait bizarre de dire jeune, vous êtes si jeune déjà.
Oui, j'ai 22 ans, mais j'ai été plus jeune dans ma vie. C'était ça la question. Oui et non, dans la mesure où, si vous voulez.
On a l'impression que ça vous est arrivé un peu par hasard.
Oui, là où vous êtes aujourd'hui. Oui, dans la mesure où, si vous voulez, ma barque de musicien, je ne l'amène pas dans le but forcément de me rendre dans tel ou tel festival, parce que ce que j'aime avant tout, c'est les œuvres, c'est la musique, c'est de jouer. Bon, jouer en public, ça, je veux dire, c'est quand même quelque chose dont je pourrais pas me passer. Et bien sûr, c'est un grand honneur de jouer dans un festival comme la Roque Nanterron. C'était pas forcément un objectif, parce que les places y coûtent cher, je veux pas sans figurer, puisque c'est l'occasion de dire qu'il y a justement des offres pour les moins de 30 ans. Donc dire les places pour y jouer, y coûtent cher.
Super.
Et donc, c'est un grand bonheur.
Vous venez de dire, je pourrais pas m'en passer de jouer en public.
Oui.
Pourquoi?
Parce que si vous voulez.
On n'est pas plus tranquille à jouer chez soi dans sa chambre.
Oui et non. C'est-à-dire que, alors, une interprétation, ça se construit dans sa chambre, ça c'est sûr. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Mais si vous voulez, le rapport, l'œuvre vit uniquement en public, et ça c'est très mystérieux, parce que c'est vraiment, on sent, et souvent le public même lui-même n'en a pas conscience, qu'il est actif quand il écoute. Et nous, en tant qu'artistes sur scène, on sent des ondes, on sent la qualité d'écoute du public, et donc ça.
Ça change votre jeu.
Oui, totalement. Ça provoque une espèce. Et puis, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le track, qui est bon dans une certaine manière, parce que ça fait qu'on est dans un état de concentration, d'intensité, d'émotion qu'on ne pourrait pas avoir, je pense, tout seul. Et donc, non, vraiment, il se passe quelque chose, et c'est là que l'œuvre vit, véritablement.
Il y a des moments où vous jouez d'une telle façon que vous aimeriez retrouver.
Oui,
avec un certain public, je ne sais pas, j'imagine.
Oui, oui.
Ce soir, j'étais peut-être pas meilleur, mais en tout cas, j'ai touché quelque chose que j'aimerais retrouver.
Oui,
après.
Oui, oui. Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a envie de rejouer. Parce que c'est d'une certaine manière, dans certains cas, ça peut être douloureux, ça peut être stressant de monter sur scène, c'est pas facile, on s'expose, etc. Et pourtant, il y a cette chose, on va toucher quelque chose, une espèce de moment de magique, et qu'on ne peut pas reproduire, surtout ça, qu'on ne peut pas prévoir et qu'on ne peut pas reproduire. Et donc, on court un peu après ça, et puis on a envie de le retrouver après chaque concert. Et de ce qu'on m'a dit, l'atmosphère de la rock est très propice à ça.
C'est à côté de Dex, hein,
je dis pas. Tout à fait, c'est ça, c'est à côté d'Aix-en-Provence.
Est-ce que c'est aussi un moyen de côtoyer des pointures, de voir finalement des gens qui partagent la même passion que vous? Je me dis que quand on a 12 ans et qu'on est au collège, ben on n'a pas forcément des copains qui aiment le piano. Est-ce que là, c'est aussi une chance de pouvoir se retrouver entre pianistes et...
Bien sûr. Alors, si on veut cette émulation, je l'ai aussi au Conservatoire de Paris, où j'étudie depuis maintenant 6 ans. Donc, ça fait.
C'est un lieu.
C'est quand même un lieu vraiment où cette émulation, où en effet, on côtoie des gens qui partagent la même passion de la musique, le même enthousiasme. Mais en effet, voilà, un lieu comme la Roque, c'est très particulier parce qu'à la fois, vous côtoyez vraiment les pointures mondiales du piano. Il y a aussi la presse, donc ça, c'est aussi important pour tout ce qui est l'aspect de visibilité qui est important, en effet. Et puis, bien sûr, il y a ce public de mélomanes qui est très bienveillant, qui a envie d'écouter de la belle musique, et ça nous motive beaucoup, je pense.
Ma question, c'était aussi de savoir quel rapport vous avez avec les autres jeunes pianistes. Est-ce que c'est une compétition à mort et vous ne vous parlez pas et vous mettez des pots de banane?
Oui, évidemment. Non,
bien sûr. Est-ce qu'au contraire, il y a un plaisir d'être ensemble?
Oui, oui, oui. Non, alors
pas avec tous, mais avec certains, j'imagine.
Oui, alors bien sûr, il y a le phénomène de chapelle, si on veut, des écoles, tout ça. Mais ça, donc, je veux dire que j'ai le Conservatoire de Paris, et plus particulièrement, d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait qu'on parle vraiment d'Hortense Cartier-Bresson. Et surtout,
c'est ma question d'après.
Voilà, bien, mais j'anticipe un petit peu, parce que ce qui est important de dire, c'est que le 28 juillet sera.
C'est une journée qui lui est consacrée.
Tout à fait.
Vous serez notamment, vous êtes son élève, il y a aussi Arthur Winkel qui est
avec vous. Winkel, oui, c'est ça, tout à fait.
J'ai même dit son nom, voilà, ça ne m'étonne pas de moi. Parlez-nous d'elle alors.
Voilà, donc, tout ça pour dire que Hortense Cartier-Bresson, donc. Va jouer le soir dans le château du Parc à la Roque, et sera entouré de ses élèves, de 5 de ses élèves. Donc en effet, il y aura Arthur et moi, il y aura Théo Chenray, Guillaume Bellum et Rodré González Borrasan, qui sont un peu plus grands que moi, qui sont un peu mes grands frères. Et tout ça pour dire que vraiment, on est une famille...
Des vieillards de 25 ans.
Des vieillards de 30 ans. Vous imaginez pour moi qui ai 22 ans ce que voilà, c'est. C'est quelque chose. Ils doivent connaître Isabella Gianni, sûrement. Ça fait une grosse différence quand même. Et donc, ça, je veux dire, on a vraiment cette chance. Et ça, c'est vraiment grâce à Hortense, c'est d'avoir créé au sein de sa classe une ambiance familiale. C'est-à-dire, si on veut, on mène des carrières parallèles, donc on court un peu derrière les mêmes lièvres, si on veut. Et pourtant, je sais que c'est des gens à qui je peux aller roder un programme, à qui je peux demander conseil. Et donc, non, vraiment, ça, ce sont des amitiés musicales. Et même, j'emploie le mot de famille, parce que c'est vraiment ça. C'est des gens avec qui j'ai ce lien très fort, donc pas du tout de compétition.
Mais donc, vous retrouvez... je ne vais pas y arriver parce que je ne me rappelle jamais de ce nom, La Roque d'Anthéron,
oui.
à l'invitation de votre professeur Hortense Cartier-Bresson qui a fait ce programme, ou c'est La Roque qui tous les ans organise des journées autour de certains professeurs du Conservatoire de Paris?
Alors je crois que ça s'est déjà fait, c'est pas forcément tous les ans, mais là en effet il y a cette journée. Je trouve le concept d'ailleurs très original, comme ça il y aura deux récitals de piano en effet, d'Arthur et de moi qui sommes les Benjamins, n'est-ce pas, de cette famille. Donc et donc le soir on sera dans un concert très festif parce que ce sera des œuvres à deux pianos et 4, 6, 8 et 12 mains. Voilà.
Alors, comment on choisit son professeur quand on rentre au Conservatoire de Paris? Vous, quand vous êtes arrivé il y a quelques années, vous ne connaissiez pas forcément?
Oui, alors moi, je dois dire que ça s'est fait...
C'est elle qui vous a choisi? C'est vous qui l'avez choisi?
Assez indirectement, c'est-à-dire que moi, à vrai dire, j'ai rencontré un autre grand pianiste et pédagogue qui s'appelle Denis Pascal, qui m'a préparé, à vrai dire, au concours du Conservatoire de Paris. Et il s'est trouvé que l'année où je suis entré, il n'avait pas de place dans sa classe. Donc, il m'a orienté vers cette grande amie qui est Hortense Cartier-Bresson. Et notamment, ils sont, eux, très proches parce qu'ils ont étudié avec le même professeur, qui est un pédagogue hongrois, qui s'appelle Georgi Chebok. Et donc voilà, je me suis retrouvé finalement un peu par hasard chez Hortense. C'est Denis qui m'a recommandé, et elle a bien accepté de m'accueillir dans sa classe. Et alors je dois dire que ça a été vraiment la chance de ma vie, je peux dire, même si ma vie, je suis assez jeune, mais quand même je vois à quel point ça a été une rencontre totalement déterminante dans mon parcours.
Mais il y a des lignées, parce que c'est vraiment, vous dites, elle a été l'élève de, dans la musique classique, on est comme ça, vous parlez de famille, il y a vraiment des générations en générations.
Alors plus ou moins, là en l'occurrence, c'est vraiment, donc si on parle de Chebok, c'est ce maître commun à Denis Hortense, lui est pratiquement un héritier de Liszt, peut-être pas au premier degré, mais au deuxième degré. Donc voilà, donc il y a en effet ces filiations. Alors, en général, les grands pédagogues remontent de Chopin et de Liszt, et finalement pas si loin, parce que c'est genre, Liszt est mort il y a 130 ans. Donc voilà.
Et donc avec vous, je suis à 4 personnes de Liszt.
Voilà, c'est ça. Voilà, il faut signer un autographe si vous voulez après. Et cela dit, alors là, quand même, c'est important de noter que l'enseignement d'Hortense Cartier-Bresson n'a rien de sectaire. Et justement, et ça, c'est peut-être une particularité qu'elle a, c'est cette capacité à nous permettre de développer notre propre champ intérieur, mais de surtout pas limiter, ce qui n'aura aucun intérêt, parce que si je cherchais à limiter, je ferais moins bien ça, je peux vous assurer. Mais en revanche, ce qui porte un intérêt en tant qu'artiste, c'est de trouver qui je suis, ma propre voix. Et ça, elle a vraiment ce génie de permettre ça. Et d'ailleurs, ça se voit, là on va être 5 de ses élèves, et on a tous été très marqués par son enseignement, et pourtant on ne se ressemble absolument pas. On est très différents. Et
dans l'interprétation, dans ce qui vous intéresse
Dans les répertoires, même dans la manière de jouer, on n'a pas les mêmes sons et tout ça. Et alors ça, c'est vraiment très curieux, et je pense que c'est parce qu'elle nous pousse à entrer en connexion avec ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les œuvres, les compositeurs, les œuvres, mais à trouver notre propre voix, j'allais dire, écrivez-le comme vous voulez, VOX ou VOIE, c'est vraiment... et voilà, c'est surtout pas de limiter. Et ça, c'est,
comme pour nous, l'univers de la musique classique est un univers qu'on connaît très mal quand on n'est pas dedans. Ça veut dire qu'elle utilise des méthodes de coaching, elle vous fait travailler sur votre personnalité, ou c'est par son enseignement de la musique qu'elle arrive à vous faire accoucher de vous-même?
Et bien justement, c'est finalement ni centré sur elle, ni centré sur nous, mais c'est centré sur les œuvres, sur le matériel qui est finalement... on essaye de se connecter à la pensée de gens qui sont morts en général. Bon, je peux jouer la musique d'aujourd'hui, mais il y a plusieurs siècles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la notation musicale, et qui est, bon, d'une certaine manière, assez précise quand même, mais incomplète. Et donc, c'est là qu'on peut parler d'interprétation, parce qu'il y a une forme de vérité d'interprétation, parce qu'il faut faire ce qui est écrit, et que quand même, c'est assez précis de ce point de vue-là. Mais quand même, on a une manière qui nous est propre de recevoir cette notation. Et ça, c'est vraiment le talent d'Antoine Sartet-Bresson, c'est de nous permettre comme ça de se connecter aux œuvres, et pas par rapport à elles, mais vraiment par rapport à nous et au texte.
Alors, en préparant l'émission, j'ai vu un reportage où on voyait Augustin Béliot, qui était votre professeur, je crois, à Bourges, c'est ça ?
Absolument.
Il dit quelque chose de très beau, il dit que les gens les plus doués, il parle de vous, hein, donc c'est très joli, il dit « Les gens les plus doués sont largement des autodidactes », et il ajoute « Les professeurs sont là pour leur donner à manger ». C'est un peu déjà ce que vous aviez rencontré à Bourges, quelqu'un qui en fait vous apprend pas une manière d'être, mais qui vous apprend à être vous-même et à développer. Enfin, c'est cette phrase ce que tu es, sois-le.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Non, je veux dire, c'est pas ça la phrase.
Deviens ce que tu es.
Voilà, deviens ce que tu es. Ouais,
mais c'est ça. Et c'est ce que je disais, imiter. Parce qu'on a des modèles, on a des. Dans des faits, je pourrais chercher. J'admire tellement ce que fait Hortense, son jeu. Je pourrais chercher à l'imiter, mais en fait, finalement, ça n'aurait pas grand intérêt parce que je ferais moins bien. En revanche, être moi-même, ça peut avoir. Je ne sais pas si c'est un intérêt, mais en tout cas, c'est la chose que je peux faire le mieux. Voilà, disons-le comme ça. Et je trouve que c'est une très belle phrase d'Augustin. Et ce que je trouve d'autant plus juste qu'en effet, moi, je suis un autodidacte, à vrai dire. J'ai commencé la musique, je viens de Bourges, qui est une petite ville, il y avait un conservatoire, j'ai en effet rencontré de très bons professeurs, mais quand même, d'ailleurs mes parents ne sont pas musiciens, donc vraiment j'ai ce rapport-là, moi j'ai appris comme ça, jouer du piano en déchiffrant des partitions, en improvisant.
Sans du tout penser en faire un métier.
Non, absolument.
Il n'y avait pas autour de vous des gens qui en vivaient.
Non, pas du tout, absolument pas. Et d'ailleurs, peut-être que j'ai eu tort de ne pas poser la question parce que je ne me suis toujours pas posé la question, je me suis laissé emporter dans un tourbillon. Et alors, je ne regrette pas, je vous rassure, je ne regrette pas de jouer à la Rogue d'Anthéon dans 2 semaines. Mais non, en effet, je n'ai jamais eu ce rapport à la musique professionnelle. Vraiment, j'ai un rapport presque un peu naïf parce que j'aime ça et que voilà.
Alors, on va écouter ça. La beauté de la naïveté. Je tiens à dire que notre réalisatrice qui vous a écouté en venant a dit que vous écouter lui avait fait beaucoup de bien. Alors, on vous écoute. Thank you. Voilà, c'était In Paradisium de Forêt. Est-ce que j'ai bon? Exactement. Voilà, j'ai réussi.
C'est ça. In Paradisium du Requiem de Forêt.
Voilà, je me suis trompé. On est toujours avec Gabriel Durlia, qui est donc pianiste et qui sera à la Rock d'Anthéron le 28 juillet à 11h à l'amphithéâtre Marcel Pagnol. Et Thibaut Reiss, qui est l'auteur de L'inconnu de Cleveland. Ça va mieux quand le retour marche en 10-18 chez Society. Je crois que vous aviez une question à poser à Gabriel, Thibaut.
Oui, j'ai deux questions, une sérieuse et une un peu moins sérieuse. La sérieuse, c'est est-ce que un interprète, peut se permettre de rajouter dans son interprétation des choses qui ne sont pas sur la partition, des notes ou des intentions, des intonations?
À vrai dire, non, j'ai envie de dire. Là, par exemple, là, on vient d'entendre, en effet, c'était une transcription du Requiem de Forêt que j'ai réalisé moi. Donc, j'avais une certaine liberté parce que c'est une œuvre d'orchestre, et pour chœur et orchestre. Et donc là, j'ai vraiment décidé comment je voulais faire sonner le piano à partir de cette base-là. Pour ce qui est d'une œuvre de piano, là, je dois dire non, parce qu'en fait, il n'y a pas le besoin. Mais c'est une bonne question, parce que souvent, on se dit que c'est un côté un peu inerte. Enfin, on a cette impression que la partition, c'est quelque chose d'inerte. Mais en fait, les grands compositeurs ont cette espèce d'instinct de noter à la fois peut-être trop et pas assez, mais disons de nous donner assez d'indices pour qu'on soit guidé et qu'on ne ressente pas le besoin de rajouter quoi que ce soit, en fait. Voilà.
Bon, j'ai une autre question.
Mais oui, il n'est pas sérieux, je pense qu'il, je pense qu'il est capable de. Alors,
moi, il se trouve que dans ma vie privée, je suis préposé à la cuisine chez moi et j'aime bien les oignons. Je coupe les oignons et 9 fois sur 10, je me coupe un doigt. Et je voulais savoir si, est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il s'autorise à couper les oignons dans sa vie privée, sachant qu'il pourrait se blesser. Et j'imagine que ses doigts, c'est son outil de travail. Et évidemment, c'est une question un peu rigolote et pas trop, parce que ma question, c'est de savoir si vous faites attention à ce qui est votre outil de travail, c'est-à-dire vos doigts, quoi.
Oui, bien sûr, je fais très attention, et y compris. Je dois pas dire que je me restreins tant que ça. Bon, alors, je suis très mauvais cuisinier, donc déjà, bon, ça règle le problème. J'aimerais bien, la nuit, mais être plus agile de mes doigts pour faire la cuisine. Mais oui, par exemple, je prends pas le vélo, enfin des choses comme ça.
Ah,
oui,
voilà.
Je fais comme attention.
Vous faites pas de la patinette dans Paris?
Non, la trottinette. En plus, à une époque, j'en faisais, puis je me suis. Maintenant, je me limite. Et en effet,
ça vous manque?
Moins que le piano, je vous rassure.
Au moment de faire le choix, ça a été ça. Quoi.
Alors, j'ai lu, je vois le temps qui file, hein, malheureusement. Et j'ai vu que vous aimiez aussi participer à des créations contemporaines avec Carole Beffa, Fabien Touchard ou Daniel Tosi. C'est important pour vous d'être aussi dans la création d'aujourd'hui, de ne pas être que dans ce que vous disiez, avoir un rapport avec une partition.
Oui, ça, je dois dire, ça. D'ailleurs, ça nourrit beaucoup, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur ces compositeurs qui sont morts. Des fois, on aimerait bien, en effet, les appeler et leur dire « Mais alors là, qu'est-ce que vous avez voulu mettre ?» Et ça, c'est la chance de travailler avec des compositeurs d'aujourd'hui. En effet, vous avez cité Daniel Tosi, Carole Beffa, Fabien Touchard. Je pourrais aussi citer Thierry Escache, avec qui j'ai même une relation encore plus intime, si je veux dire, parce que c'était mon professeur. Et maintenant, c'est un ami, donc j'ai beaucoup joué sa musique. Il m'a enseigné la composition. On a joué ensemble, etc. Donc, de côtoyer comme ça des grands compositeurs d'aujourd'hui, ça me permet quelque part d'être plus confiant dans mon rapport à Beethoven ou à Bach, de voir en fait qu'est-ce qu'on peut tirer de la notation musicale et qu'est-ce qu'on peut comprendre sur les compositeurs. Ouais.
En fond, je réalise que vous faites un peu quelque chose comme Thibaut avec son livre. Hein. C'est que finalement, vous avez une matière qui n'est pas.
Mais je suis un enquêteur.
Et vous devez, oui, c'est ça. Et vous devez les retrouver pour trouver ce qu'ils ont voulu dire. Donc j'imagine par la biographie, peut-être, de retrouver dans quel état d'esprit ils étaient à ce moment-là.
Ah, mais c'est complètement ça. Mais quand j'écoutais Thibaut, je pensais à ça. C'est vraiment. Oui, on est dans un travail d'investigation. Et dans la recherche d'une vérité, alors peut-être même qu'elle est subjective, cette vérité, c'est même pas dit que...
Je pense que la chaîne, elle l'est aussi. Hein.
Ouais, et enfin, en tout cas...
Il y a
une part d'interprétation aussi, c'est ça que je m'en compte dans le travail.
C'est très subjectif, la vérité avec un grand V n'est acquise à personne.
Voilà, oui.
Dans la même vidéo de France 3, on va terminer avec ça, vous dites que votre rapport aux choses essentielles, alors je ne sais pas si vous en rappelez, hein, c'était il y a un an, vous vous en souvenez. Vous dites que votre rapport aux choses essentielles de la vie ne changera jamais. Vous écoutez, on comprend que votre bonheur de jouer de la musique, ce ne sera jamais d'être à New York devant des gens qui auront payé 10 000 $ pour vous écouter.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce bonheur de jouer de la musique?
C'est ce que je disais aussi à la Rock d'Anthéron. Je suis bien sûr très honoré et ravi de jouer à la Rock d'Anthéron, mais si vous voulez, c'est pas l'essentiel de ce que je recherche dans la musique. Et alors, comment parler de ça? Moi, je sais pas, vers l'âge de 8-9 ans, je me demande.
Vous étiez absorbé par la musique?
Oui, c'est ça. D'ailleurs, je me demande si c'est pas en écoutant le Requiem de Forêt que m'avait acheté un disque que m'avait acheté ma grand-mère avec l'orchestre du Capitole, je me souviens très bien. Et si vous voulez, j'ai été au contact de quelque chose dont j'ai besoin quelque part. Voilà. Donc j'en ai besoin. Donc
besoin
je vis avec
comme
ça.
De respirer.
Oui, vraiment, c'est nécessaire à mon équilibre. J'aime ça par-dessus tout, donc voilà, je suis en contact de ça en permanence. Ouais.
Je suis désolé, on vient de parler de forêt, on va envoyer le générique qui est un peu moins forestien.
Je sais pas comment on dit.
Je vous remercie en tout cas d'être venus, Thibaut Rest et Gabriel Durlia. La relève était aujourd'hui encore présentée, produite et même préparée par Christophe. La réalisation était assurée par Allison. C'est pour moi cette émission l'occasion de remercier celui qui nous a accompagné à la direction technique de Radio Campus Paris pendant quelques années, notamment pendant le Covid et les confinements, quand on faisait des émissions dans des conditions parfois acrobatiques. Merci et bonne route à Jonathan qui nous a donc accompagné pendant toutes ces années. Vous pourrez retrouver cette émission et toutes les précédentes, ou presque, sur le site web de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. Vous retrouvez maintenant dans 14 minutes les estivales. Je crois qu'ils vous ont préparé un super programme. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.